Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission On lâche du lest, la première de l'année. Bonne année à tous nos téléspectateurs, téléspectatrices, téléspectatrices. On est aujourd'hui en direct depuis le 108 dans les studios de Zotelli pour une émission consacrée à un travail de recherche artistique sur le quartier d'Orléans-la-Source avec trois invités, donc Malik Nejmi, artiste photographe.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Bonjour Malik. Louise Bras.
Oui, bonjour.
Donc, artiste et chercheuse.
Oui.
D'accord, entre
à
autres.
Peu près.
Voilà. Et Hamid Jarboui, artiste plasticien, notamment mosaïste.
Et art thérapeute,
voilà.
Merci.
On aura l'occasion de voir d'ailleurs le travail que tu as fait dans cette T17. C'est bien ça? Un travail de mosaïque?
Alors, en fait, le travail de Hamid est présenté à la source, au studio qu'on a ouvert, qui n'est pas lié à T17, mais au travail que tu avais fait dans les entrées des allées Camille Flammarion, années 95. C'est pas
voilà.
Directement la tour 17.
Voilà, d'accord. Donc dans d'autres immeubles qui ont eux aussi été détruits, tout comme celui justement de la T17. C'était de mémoire le 29 octobre 2023. Et on regarde donc tout de suite un reportage qui a été réalisé par l'équipe de Zotelli, d'ailleurs, que je salue, hein, qui est à la technique. Donc ce sont Morgan et Steven à la technique. Il y a Yvan et Antoine aux caméras. Et puis Samy et Julien qui sont jamais très loin.
Là-bas. 11h03, décalage à 11h03.
D'accord, ok. Décalage de l'explosion qui n'aura pas lieu à 11h, mais 11h03. Un grand silence règne, tout le monde est dans l'attente.
11h08 apparemment.
11h08, ça a été décalé encore ?
Ouais.
L'explosion est encore décalée.
Des réactions par rapport à ces images?
Des réactions, il y en a plein, elles sont multiples en fait. Elles sont toutes liées aux histoires qu'on peut avoir personnelles, de près ou de loin, parce que la source est connue, pour moi en tout cas, dans l'enquête qu'on peut avoir menée dans ce travail, de par la France. C'est plus qu'une banlieue ou qu'un quartier, c'est une ville nouvelle, hein, vraiment un projet qui a été assez vu de manière mondiale avant même que ce soit construit. Et puis les émotions aussi complètement intimes. Personnellement, moi j'avais la boule au ventre déjà 2-3 jours avant et dans la semaine, mais en la voyant encore toute balafrée comme ça. Et puis il y a eu quand même une certaine façon en fait de gérer en fait cette démolition qui était presque très particulière dans le sens dans le silence. Même j'avais envie de dire que même un enterrement en fait il y a plus de vie quelque part, quoi. C'est-à-dire que une fois qu'elle est tombée, elle est partie très vite. Hein, voilà. C'était presque une disparition, quelque part, un tour de magie. Mmh. Et puis comme si, après, derrière, il n'y avait pas de trauma et pas d'espace de parole pour ça. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est la particularité. Moi, je retiens en tout cas de cette journée.
Alors, on va parler dans cette émission du travail de recherche artistique que vous avez fait tous les trois sur le quartier. Peut-être qu'on peut commencer par 1973, ta date de naissance, dans le quartier de la Source. Tu peux nous parler justement de ton parcours, de ces 10 ans que tu as passé enfant dans le quartier.
Alors mon lien avec la source, en fait, voilà, en tant que personne, enfin, je suis né 2-3 mois ou je sais plus qu'à 5 mois avant d'arriver à la source. Après, mes parents, en fait, se sont rencontrés ils se sont rencontrés à la source, et puis après on a été installés dans Lafayette, en fait, là où il y a se tient les bureaux de Pierre et Lumière. Ça n'a pas tellement bougé, hein, de ce côté-là. Mes parents, Solange et Mohamed, ma mère française, comme beaucoup de femmes en fait, qui sont arrivées pour travailler au chèque postaux, hein, dans les années 70, est arrivée d'abord à Tours pour ses études et est venue voir Marie Rennes, femme de Mohamed Roulam, de l'association Convergence, pardon. Et vient voir Marie-Reine, et puis sur le campus, en fait, à l'époque, ça draguait beaucoup. Et il y avait ces premiers immigrés qui étaient là. Et mon père faisait partie, hein, de la bande, des gars qui traînaient, qui jouaient au foot, hein, qui s'étaient déjà montés. Il y avait des équipes sur le campus, en fait, de joueurs de foot étrangers. Voilà. Et elle voit ce beau black, ce marocain black, un chapeau, un non, redingote, t'as dit c'est quoi cet américain, voilà. Et d'ailleurs, le mot américain est vachement intéressant dans la relation en fait, qu'on peut avoir sur les études après postcoloniales vis-à-vis du Maroc, parce qu'il y a des influences américaines en fait, vis-à-vis de ces jeunes qui sont arrivés après en France, ici. Et je pense que s'ils avaient eu un visa pour les États-Unis, ils seraient plus partis aux États-Unis qu'en France. Et ça modifie beaucoup en fait, la relation qu'on peut avoir après sur l'histoire après coloniale du rapport entre la France, le Maghreb, etc. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais ça traînait sur le campus. Voilà. Ça, je sais ça, mes parents me l'ont raconté. Et puis après, moi, dans mes souvenirs, en fait, avec mon frère à Nice, voilà, on a vécu dans deux appartements différents. L'appartement a eu un rôle très important, en fait, parce qu'on l'a très vite vu. Moi, à 2 ans, je suis parti au Maroc pour être baptisé par mon grand-père, à Rabat. Donc il faut imaginer ma mère française venant de la campagne, appelant son fils Malik, qui veut dire le roi, et qui m'envoie dans l'avion, alors qu'elle ne connaît que le Maroc par les timbres-postes. À l'époque, elle se dit, tiens, il y a au pays où on fait siffler les serpents, et c'est des palmiers, quoi. C'était un peu son imaginaire. Donc c'était quand même très violent pour elle, voilà. Et puis, mais d'être tout de suite dans cette relation, en fait, avec l'immigration, aider la famille, envoyer son fils, c'est un peu, voilà, cette relation d'amour, en fait, hein, qui est liée à la France et le Maroc. Elle travaillait chez Posto, et puis on avait tout, en fait, hein, on avait tout. Mais l'appartement a très vite été transformé par des relations, en fait, des objets qui sont apparus, des voyages qui ont, hein, qu'on a eu familiers comme ça, des photos après qui apparaissent dans les albums. Et on voit bien, en fait, après à rebours, comment se construit, en fait, une identité d'un gamin qui grandit à l'époque, hein, c'est parce qu'aujourd'hui, ça a quand même changé, par des voyages comme ça tous les 5, 6, 7 ans, où il y avait quand même des temporalités, où on était suspendu, en fait, quelque part, au pays des parents. Enfin, en tout cas, pour moi, le pays du père a eu beaucoup plus de force et d'impact, en fait, dans ma construction d'identité, parce que c'était le Maroc. C'était, on n'allait que là, quelque part, que la campagne de ma grand-mère, qui est le Berry profond, où c'était plutôt voilà, un endroit où on allait comme ça saluer, mais il n'y avait pas de projection, en fait, vis-à-vis d'identité par rapport à ça, à part du fait que j'ai un arrière-grand-père qui avait peut-être des compétences artistiques, qui dessinait, et si je fais le lien avec l'art, peut-être ça vient de là, quoi. Et puis voilà, et puis très vite, pour terminer, quelque part, pour moi, dans ma famille, ce qui fait la particularité de ma recherche vis-à-vis de mon père, parce que tout mon travail est lié à cette relation entre père et fils, c'est l'observation d'une personne qui n'était pas à sa place, en fait. On parle souvent de la migration sous l'angle de l'intégration, il faut absolument s'intégrer, etc. Mais des fois, on se désintègre, en fait, quelque part, et où on n'arrive pas, en fait, où on n'est pas en capacité de. Et ça se retrouve dans tous les champs d'immigration et encore aujourd'hui dans les traversées, etc. Et ça joue sur quelque part les transmissions, en fait, hein, qui peut des fois y avoir ou ne pas y avoir de la langue, des concepts culturels, etc. Donc voilà, à peu près pour ce que c'est 73 et ces années 70 à la source, que ça a pu être. Mais effectivement, pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le corps du père qui n'était pas dans son propre corps. Et beaucoup, du coup, des objets, en fait, de l'appartement bougeaient, des meubles se déplaçaient tout le temps, parce qu'en fait, il y avait cette instabilité, en fait, du lieu fixe vis-à-vis de la mobilité, en fait, ces gens qui sont arrivés ici, etc. Voilà. C'est encore une fois juste un cas d'école, enfin, personnel. Il y a d'autres cas, notamment pour les amis de ma mère qui étaient des Roulèmes, où la mixité a fonctionné, en fait. C'est juste des questions de personnalité, en fait, hein, voilà.
Ta rencontre avec le quartier de la Source, Hamid ?
Ma rencontre avec le quartier de la Source, je vais revenir sur quelque chose. Il disait qu'il est né en 1983. C'est l'année où je suis arrivé en France.
73. Oui, oui.
Moi, je suis arrivé 10 ans après. En 83, je suis arrivé à Orléans. Après 5 années en Picardie, à Amiens, où j'avais fait des études universitaires, j'ai ce qu'on appelle aujourd'hui un master des arts plastiques. Et mon rêve, quand j'étais au Maroc, c'était de faire des ateliers, d'être comme Matisse, comme Van Gogh, comme ce que je savais dessiner, mais je voulais faire comme ces grands-là, et c'était mes rêves. Et j'ai fait des démarches dans les écoles de beaux-arts de France, et il se trouve que parmi les écoles qui m'ont pris, y compris mon dossier, il y avait celle d'Orléans. Et à Orléans, il se trouve que j'avais un frère qui s'appelait Jarbou Idriss, qui est décédé, qui est plus jeune que moi, et qui était le fondateur du marathon et semi-marathon d'Orléans, chez Jarbou Idriss, et qui m'a logé. Et j'habitais à la source, c'est là où je vais rencontrer M. Roulam et sa femme. Et qui était parmi les premiers Marocains qui m'ont accueilli en tant qu'artiste. Et là, j'ai fait ma première exposition de peinture à la salle Gérard Philippe, à l'époque.
En quelle année?
Ça, c'était en 89, je pense. Et j'ai préparé mon concours, j'ai préparé mon dossier, et j'ai eu une équivalence pour faire les Beaux-Arts d'Orléans. Ils m'ont pris en troisième année pour faire le reste du cursus, les cinq années restantes pour le DNAT, que j'ai fait, que j'ai eu. Et pendant ce travail-là, je militais dans cette association Convergence, celle de la source, et j'étais logé chez mon frère, à la source. Et à un moment donné, j'ai déménagé à Orléans, quand j'ai rencontré ma femme. Et je me suis installé à Orléans, et aux Beaux-Arts d'Orléans. Et une fois que j'avais fini mes Beaux-Arts, j'étais dans une manifestation contre le racisme sur Paris. Et au retour, dans le bus, j'étais à côté d'un monsieur, et on discutait. Et ce monsieur, il se trouve, il me dit, voilà, je suis le directeur des HLM d'Orléans. C'est Patrick Communal, monsieur Patrick Communal. Et il me dit, j'ai un problème de cages d'escalier qui sont tout le temps... Je ramène une entreprise le matin, le soir, ils sont tagués, machin. Et il me dit, mais j'ai vu une expérience à Marseille d'un artiste qui avait refait une cage d'escalier en faïence. Et qui était lavable, qui était essatené. Si vous avez un projet, je vous propose d'expérimenter, d'en faire une cage d'escalier en faïence. Je dis d'accord, un an servi dans son bureau. Et on a fait la première cage d'escalier qui était au 30 Camille Flammarion. Qui était entre autres une réussite. Du coup, on a fait une deuxième entrée. Après, on a fait une troisième entrée. Et ça marchait. Et à l'époque, il y avait un autre bailleur qui était intéressé par cette affaire. C'était le PAC. Et qui voulait faire une cage d'escalier. Qui voulait aussi refaire une cage d'escalier. D'ailleurs, celle-là existe toujours. C'est au Blossière qui est là toujours. Et chacune des entrées avait une thématique. Et ce que je faisais dans ces cages d'escalier, c'était un peu mes exigences de travail. Parce que c'est ce que j'avais dit à ce directeur-là. Je lui ai dit, vous imaginez, vous habitez dans un immeuble, vous le traversez jour et nuit, matin et soir, et il est peint en blanc, et vous n'aimez pas le blanc. Ou il est peint en rouge, mais vous n'aimez pas le rouge. C'est normal. Il faut concerter ces gens-là, il faut concerter les... Et j'ai commencé comme ça. La première cage d'escalier, c'est que j'ai passé quasiment 3 mois de concertation. Je voyais les locataires chez eux, appartement par appartement. Et au sein de l'immeuble, j'avais un appartement disponible où je recevais les enfants, des habitants de la cage d'escalier. Et je travaillais avec eux. La première cage d'escalier, c'était pour rendre hommage à l'Orient. C'était un espèce de tapis. D'ailleurs, avec un produit local, avec les aimants de Briard. Des aimants qu'on a été chercher à Briard, dans la déchetterie de Briard, qui était un magnifique voyage des enfants. Et au retour, j'avais envie de faire l'inverse de tous les... Parce que j'étais passionné par tous les peintres, notamment français, qui ont fait le voyage au Maghreb, à un moment donné, en partant même de la Croix, Majorelle, tous ces grands peintres, Matisse, tous ceux qui ont été là-bas, qui ont été chercher de la lumière là-bas, la luminosité là-bas. Ce que j'ai essayé de faire avec ces jeunes, d'ailleurs, c'est ce que j'aurais expliqué, on va faire l'inverse. on va faire chaque cage d'escalier dédiée à un de ces peintres. Et on a commencé par le 24 Camille, qui était un travail sur Matisse. Après, on a travaillé sur Picasso, on a travaillé sur Van Gogh. À un moment donné, ça marchait tellement bien que j'avais trois chantiers dans trois quartiers de l'agglomération orléanaise, à La Source, à l'Argonne et aux Blossières. Et ça tournait. Et à l'époque, la politique de la ville avait créé ce qu'on appelle les emplois jeunes. Et ils nous ont offert à l'association trois emplois jeunes. C'est ceux qui vont devenir un petit peu, entre guillemets, ou soi-disant, les chefs de chantier. Quand j'étais pas à La Source, le chantier continuait, mais il y avait un grand frère qui avait la responsabilité du chantier, à l'Argonne c'était pareil, et aux Blossières c'était pareil, et à un moment donné, le directeur Monsieur Comina il vient me voir, il me dit voilà, la politique de la ville a changé, le maire a changé. Les portefeuilles ont changé, tout a changé. Ce projet des cages d'escalier, de réhabilitation de cages d'escalier avec les habitants, c'est ça, on finit la dernière entrée et ça va être fini. Pendant la réalisation de la dernière, j'avais un jeune d'origine kurde qui était rapatrié avec sa famille et il avait 12 ans. Ils l'ont mis au collège. Je donne brièvement parce que ça va jouer après. Et il avait de très mauvaises notes. Il avait très. Et donc, et quand je faisais le 24 Camille Flammarion, son immeuble, quand il dessinait, il était doué. J'ai encore ses dessins, j'ai encore ses travaux. Il était doué. Il faisait des. Ses portraits, il faisait tout était bien. Donc du coup, j'ai présenté tous ses dessins, tous ses travaux, tout ce qu'il a fait, et j'ai fait une exposition où j'ai invité toute l'équipe pédagogique de son collège. On leur a fait du thé, là ils ont vu ses travaux, ses dessins. Du coup, ils l'ont orienté vers le professionnel pour aller faire un CAP par l'âge mosaïque. Il a eu le prix. Il a eu le prix de la ville. Il a eu le prix de la région. Après, il est parti au niveau national. Et il a eu le premier prix national. Et la récompense de ce prix-là, ils lui ont accordé, c'était une bourse de 3 années d'études comme mosaïste en Italie. Il a été en Italie. Ce jeune homme, il est revenu, il a travaillé chez Briard. Il était très très bien. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, il a sa propre entreprise. Il vit de ça. Juste aussi pour préciser que cette expérience et que l'art en général, je ne vais pas dire que ça sauve une vie, mais c'est parmi les choses que personnellement je garde comme souvenir. Et à cette période-là, le directeur de ce lycée, sachant que l'association va être dissoute de Mosaïque, il m'a fait la proposition de prendre le poste des CAP et des BEP et des bacs pro, carrelage mosaïque du lycée Woody-Bresca, que j'ai pris jusqu'à ma retraite, que j'ai gardé pendant 14 années. Voilà, j'ai essayé brièvement de donner un petit peu. Et après ça, après cette retraite, j'étais faire une formation à Tours d'art-thérapeute.
D'accord, parce que oui, vous êtes art-thérapeute par ailleurs. Et donc, la rencontre avec Louise qui est blésoise, qui a découvert ta première rencontre avec le quartier de La Source.
Moi, c'est passé par le fait de la rencontre avec Malik. Et aussi, c'est lié directement au Maroc. Je ne sais pas, ça va faire 3-4 ans peut-être qu'on est rentré en contact. À la toute base, j'étais avec Kamel Saki au Maroc, un ami artiste à moi qui est Chichaoui, qui est d'un village très proche de celui de Malik, où il mène un travail aussi. Et à la base, c'était pour essayer de rentrer enfin de postuler à une résidence à Rome, la Villa Médicis que Malik il a fait. Et c'est ça qui a été le point de rencontre. Et bien après, en fait, je suis revenue vers Malik il y a, je crois, un an ou deux ans. Ouais. Et je suis venue avec mon mémoire de recherche, parce que je travaille sur les questions de déplacement et questions décoloniales aussi entre le Maroc et la France. Et la question aussi de l'exil des objets. Et Malik, en fait, il a intégré mon corpus d'artistes de recherche. C'est parti de là. Et donc, je suis venue directement le rencontrer à la source, avec sa famille. On a parlé de ça. Enfin, c'est un peu venu comme ça. Et par la suite, on a tissé du lien, autant entre le Maroc, la France, que la source, que, voilà, que Paris. Parce que j'étudie à Paris, je dépends de Paris 8, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai fait mon stage avec Malik, en fait, là, depuis septembre. Et il y avait l'ouverture du Mondaneum Studio qui correspondait, le vernissage. Et j'ai rencontré Hamid avant de le rencontrer de visu. Je l'ai rencontré à travers son entretien avec Malik Nejmi, que j'ai essayé de retranscrire le mieux possible. Et c'est parti de là. Et c'est par ce biais-là que j'ai connu un peu le travail de Hamid, qui allait être exposé lors de l'exposition Salon Collectif. Et pour lequel j'ai participé aussi au vernissage, j'ai essayé de donner une lecture d'une des photos de la série Super Fenêtre de Malik. Voilà.
Salon collectif qui est toujours ouvert, hein, donc rue du Général Ferrier, à La Source. On est en train de s'interroger là, enfin, dans cette émission sur les rapports que l'art peut entretenir avec la banlieue. Alors tu as évoqué ce travail qu'a fait Malik justement de recueil de paroles en haut de la T17. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement, puisque alors toi tu y as participé, toi tu étais présent évidemment.
Ça revient un petit peu sur la question du cheminement en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question du rapport entre l'art et la banlieue, mais en tout cas, la question de la parole, elle est fondamentale pour moi. Peut-être plus que celle de l'image, d'ailleurs, dans le cadre de ce projet. Et puis, pour rappeler qu'effectivement, dans deux choses que tu as dit, il y a une chose qui me touche énormément, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on voit des projets qui marchent dans les quartiers, qui sont arrêtés d'un coup. C'est quand même absolument dingue, plutôt que de se dire, tiens, on va pérenniser ces actions. Aujourd'hui, il pourrait y avoir un atelier de mosaïque pérenne à la source, les gens pourront en bénéficier, etc. Et puis le travail de Louise aussi, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle est aussi tout de suite rentrée en relation avec les habitantes, parce qu'il y a plutôt des femmes qui viennent dans le Mondaneum Studio, il y a un groupe de 7, 8, 10 femmes. C'est pas évident de travailler avec des adultes à la source, ce lien il est hyper précieux en fait aussi. Le binôme qu'on a créé, garçon-fille, hein, homme-femme, il est très important dans cette relation, et puis la dimension qu'elle apporte à la recherche, on va dire, sur la visite qu'elle a faite, qui était presque une performance du Mondaneum Studio, où on a abordé ces questions un petit peu dont tu évoques dans la préparation de cette émission, clinique, thérapeutique, etc. Ça, c'est hyper important. Sur la question de la parole, moi, en fait, j'étais au tout début du cheminement, en fait, quand je suis arrivé à la source, quand je suis revenu, en fait, parce que c'est un retour. C'est comme un retour au village, au bled, c'est un retour à la source. Pour moi, la question de la banlieue, en fait, je l'ai toujours évité, en fait. Je suis revenu à la source quand ? Dans mes projets en fait, artistiques, c'est plutôt par l'association qu'on avait ici ouvert au 108, hein, enfin, Lumen, Image du Pôle, Sans Soleil, on avait un lieu rue de Limar, et avec une photographe qui s'appelle Valérie Loret, on a fait des ateliers en 2003 déjà autour du plan GPV. 2003, GPV, le premier plan Borloo. GPV, grand projet de ville, donc rénovation urbaine. Et déjà à l'époque, la démolition des bouleaux, là où il y a maintenant les images qu'on voit dans le reportage de la médiathèque et du complexe sportif, les enfants de classe de CM2 avaient manifesté des cauchemars auprès de leurs professeurs en disant mais où sont passés les habitants, voilà. Et à l'époque on prenait en compte en fait cette parole un petit peu de trauma, post-trauma de la part des enfants, de se dire bah, tiens, on va appeler des artistes, hein, c'est toujours un petit peu comme ça, on vous appelle après en fait post événement pour venir réparer en fait ce qui n'a pas été fait. Le contexte en fait là de mon retour autobiographique à la Tour 17, à la source, on va dire, c'était dans le cadre de... Je savais que j'avais anticipé, j'avais eu écho, en fait, que cette tour allait partir. On m'avait dit, c'est monsieur Robert qui m'avait dit ça, du journal L'Indien, m'a dit, Malik, tu sais, les habitants de la Tour 17 vont partir et ils voudraient une photo de leur appartement avant de partir. Et là, je m'étais dit, moi, j'adore quand il y a une demande comme ça et de répondre à cette demande. À ce moment-là, j'ai ma légitimité, j'ai ma clé, parce que c'est pas parce que je suis né là-bas et je suis rebeu de 50%, que j'ai forcément une légitimité ou un regard en fait, sur la source. Pourquoi ce ne serait pas Louise, une pure française, qui pourrait travailler dessus, etc. Ça, c'est toujours un peu des questions en recherche qui se posent sur ta posture. Et pourquoi un blanc pourrait parler de, ou ne pas parler de la question coloniale, etc. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Et quand on est dans entre deux cultures, c'est encore plus intéressant et parfois ambigu. Mais donc du coup, je suis parti là-dessus et j'ai commencé à avoir accès à la tour, mais de manière différente. Je ne pouvais pas rentrer dedans parce que le bailleur préparait un livre, mémoire, et on sentait que c'était son bébé, en fait. Hein. Quand je dis bailleur, c'est Maxence Marchand, Pierre et Lumière, avec qui maintenant, en fait, on travaille ensemble. Voilà. Et il m'a ouvert la tour sur un certain créneau, et je suis monté avec une sociologue, Hélène Berthelot, qui a fait une étude genrée en fait, sur la place des femmes à la source, et on monte dans la tour, et en fait, on monte sur la terrasse. Alors la terrasse, pour un garçon comme moi, un fils d'immigré, ça me renvoie directement en fait, à la terrasse de la maison au Maroc, et je vois le bailleur pointer du doigt, me montrer la source, et je dis, mais c'est ça qu'il faut dire. En fait, je vais... Dans mon projet, on ne verra pas la tour, mais je vais me servir de la tour comme un personnage, en fait, la personnifier, et on va parler depuis la tour. Et en fait, le projet des vidéos s'appelle Les Points Hauts. Dans toujours un entretien avec M. Robert et Colette, sa femme qui n'est plus là aujourd'hui, en fait, il y a eu un débat sur une passerelle qui a été redécoupée à la source. On a retiré une passerelle parce que le problème à la source, c'est le point de deal, et c'est ces gamins qui sont là, qui du coup jettent des cailloux sur le truc, qui créent une espèce de zone de non-droit, on va dire, et qui gêne. Voilà. La gestion du contrôle, etc. Et tout. Et donc, du coup, pour remettre la main sur le contrôle, on fait retirer la passerelle. Et dans une réunion politique, me dit M. Robert, il aurait été dit par un homme politique de la ville d'Orléans, quand nous sommes en guerre, on enlève les points hauts. Donc en fait, on voit bien que en fait, le vernaculaire, en fait, le langage qui va être utilisé, c'est un langage en fait, de guerre, visé, hein, pratiquement. Et cette idée du point haut, enfin, c'est la question du contrôle, en fait, mais presque du contrôle. On parlait de la question du rapport des corps dans la banlieue, etc. Puisque dans ces endroits, dans les plans de rénovation urbaine, qu'est-ce qu'on fait? On retire en fait, tout ce qui est du... on remet du contrôle en retirant toutes les positions en fait, où les corps pourraient se poser. Il n'y a plus d'espace public, il n'y a plus de mobilier urbain, etc. On retire tout ça parce qu'on ne veut pas que les gens squattent, se posent, boivent un coup, s'embrassent, tout ce que tu veux, gravent leur nom sur les mains, etc. Donc tout ça est retiré. Et les points hauts, c'est vraiment de faire venir des habitants. Donc on est quatre binômes, en fait, à avoir, parce que le temps était très court de tournage. Pu avoir accès à la tour, et en haut, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on philosophe, quoi. Moi, je suis avec ma mère, on parle du rapport qu'on a avec mon père, etc. Et on voit bien qu'en fait, là, c'est le rapport presque même des peuples, en fait, des populations, mais des peuples avec leurs imaginaires, en fait, qui est remarquable, en fait, dans ces quartiers. C'est comment, en fait, on peut redéployer de l'imaginaire sur l'objet dur qu'est l'architecture, tout ce qui est la notion du plan, du logement, etc. Tout ce qui fait violence, en fait, à ces corps. Et le seul moyen, en fait, pour moi, en tout cas dans ma construction, de s'en échapper, c'est l'imaginaire, c'est la poésie, c'est tout ce qui n'est pas collectable, en fait, dans le musée, en fait, en soi, quoi. Voilà. Tout ce qui est le mouvement, la danse, la parole, etc.
Dans le micro.
Juste un dernier point. Donc, c'est pour enrichir un petit peu aussi ce qu'il disait. En parlant démolition, fin des années 90, je travaillais en argentique. Et il y a eu une démolition à l'Argonne. Et le directeur, l'ancien directeur, ce monsieur communal, il m'avait permis d'avoir un endroit où je peux faire des prises de vue d'une démolition qui a été faite d'une autre technique par rapport à celle qu'on a assisté à la source. Ce que du coup, le jour d'aujourd'hui, j'ai deux démolitions, deux images, argentiques et numériques, de deux démolitions de tours. Mmh. Et ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. La première, par exemple, la poussière, il est arrivé jusqu'au... il a renvoyé même les gens. Voilà, c'était juste pour préciser, c'est que j'ai assisté à deux démolitions de deux immeubles de quasiment presque le même bailleur. Voilà.
Alors, oui, on s'interroge sur
les liens que peuvent entretenir l'art avec la banlieue, on s'est aperçu dans cette première partie que la démarche artistique était précédée dans le cadre du travail, par exemple, que tu as fait avec les cages d'escalier, par un temps d'écoute. Et c'est ce dont tu viens de nous parler, justement, un temps alors, de parole, certes, des habitants, mais d'écoute de la part des artistes, de ces habitants. Je vous propose que l'on regarde un extrait, justement, de l'un de ces... Alors, on n'appelle pas ça un reportage, ça y ressemble, hein, pourtant, quand même, ce témoignage, hein, voilà, cette vidéo, un extrait, donc, de Véronique Julia. Voilà, on se regarde ça tout de suite.
Ça, il y avait plus de logements parce qu'ils en ont cassé. Là, la T17 qu'ils vont retirer, ouais. C'est bien des gens qu'il a fallu mettre quelque part. Ils arrivaient d'où ?
Question, oui, voilà, ils arrivaient d'où bon, en écoutant, on peut retrouver ces vidéos sur Vimeo. On s'aperçoit notamment des origines rurales, hein, qu'avaient beaucoup d'habitants de la source, que la T17 était un progrès en son temps, avec l'eau courante, eau chaude, eau froide, oui. Que c'était un certain confort quand même pour beaucoup d'habitants qui arrivaient dans cette ville nouvelle. Moi, j'aimerais bien savoir, toi, Louise, justement, les recherches, pourquoi est-ce que tu t'intéresses justement à la banlieue?
C'est pas directement mon sujet de recherche, parce que je me déplace aussi, en fait, je travaille un peu principalement entre la France et le Maroc, mais j'ai aussi une expérience individuelle qui est liée à ça. Moi, mes parents, ils sont de Blois, essentiellement de la ZUP, donc c'est la banlieue d'une autre façon, et c'est pareil, moi, mes parents, ils m'ont évité d'y vivre. En fait, mon père, il avait trouvé une petite baraque dans un village complètement perdu à 20 km de Blois. Et en même temps, je faisais retour tout le temps. J'ai appris la danse au quartier. J'ai fait du théâtre aussi. Ma mère, elle en a fait plus de 10 ans. Et toutes mes tantes, en fait, elles sont restées vivre à la ZUP à Blois ou quartier ouest, la Quinière, qui est juste à côté. Et donc j'ai aussi un petit cheminement personnel qui est lié à ça, et j'étudie pas nulle part non plus. Je l'ai quand même choisi je l'ai choisi. On m'a sélectionné aussi, mais je suis à Paris 8 aussi, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est pareil, je me déplace encore d'un autre côté. C'est le 93, banlieue nord de Paris. C'est encore une autre logique aussi, mais qui rejoint. Et donc j'ai pas un lien non plus direct. Mon sujet, par exemple, en art, il est dans le déplacement aussi, mais il est aussi à la marge, en fait, parce que la banlieue, c'est la marge aussi, enfin, je pense. C'est être en banlieue, ouais, c'est être reclus aussi, parfois, faire partie des rebuts, surtout sur les générations là qui sont en ce moment, quoi. Et justement, aussi, tous ces bâtiments, moi, la tour où ma mère, elle a grandi, elle existe encore. Enfin, c'est un bar, d'ailleurs, c'est une barre, c'est pas une tour. Et quand on voit la vétusté des lieux qui étaient, par contre, présenté autrement au moment où ils ont été construits dans les années 60 ou 50, ça dépend, quoi. Il y a un pan d'histoire qui est radicalement différent. Et puis moi, je suis encore une autre génération, en fait, de Hamid et même de Malik. Donc je vois les choses, je fais retour sur les choses, mais je les ai pas vues évoluer, en fait, quoi. C'est mes parents qui me transmettent ça, mais pas...
Alors peut-être que vous pouvez me parler justement de ce musée dont on a parlé tout à l'heure, là, rue du Gabriel-Ferrier, le Mondanéum, justement. On ne peut pas faire l'impasse sur l'explication du mot Mondanéum. Pourquoi le Mondanéum ? Alors attention, pourquoi vous allez apprendre des choses sur le quartier dont vous ne vous seriez jamais douté.
Alors c'est bien, alors, pour répondre, c'était Véronique Clément et sa fille Julia, en fait, il y a 4 entretiens qui sont filmés. On dira peut-être en fin d'émission qui seront bientôt visibles, peut-être aussi en dehors de Vimeo, mais dans le projet d'Expo à Orléans. La question que vous posez sur le Mondanéum permet aussi de rappeler un partenariat important avec, la maison d'architecture Centre Val de Loire, qui est le partenaire nommé par la DRAC pour le projet. Partenaire aussi sur lequel se sont greffés la ville d'Orléans, la préfecture, la région. C'est un projet qui était bien doté jusqu'ici quand même, qui a permis jusqu'à trouver un ancrage, ouvrir un lieu, comme disait avec Louis. C'était pour les habitants d'être aussi identifiés. C'est qui ce photographe qui est là, etc. Parce que recueillir la parole, il y a plein de façons. Puis la source est vaste, c'est 20 000 habitants. Où est l'entrée, en fait? Comment, quand on arrive sur le terrain, où est l'entrée du territoire? La question du mondanéum, en fait, elle renvoie aussi indirectement, en fait, à la méthode de travail, quelque part. Parce que ne pas travailler en direct, l'art, la banlieue, l'artiste qui revient, etc. C'est comment tu travailles avec une association? Quand tu bosses avec une association, comme on le fait en ce moment avec les gens du voyage, tu as un public. Tiens, on m'a dit, tu viens, tu as une commande, tu vas travailler là-dessus. Là, en fait, je me colle complètement à un truc hyper vaste et l'entrée, le cheminement est assez complexe. Ce que j'appelle, moi, l'itinéraire thérapeutique, en fait, dans mon travail, ce que je fais à la fois au village où je cherche une plante pour soigner la nostalgie des enfants d'immigrés. Tu vois le truc? Voilà. Voilà. Et bien, cette notion de soin, quelque part, elle arrive, elle me parvient à la source par une rencontre que je fais en errant au pied de la tour avec cette femme dont je vous ai parlé, Rogiatou, Madame Dia, qui m'accueille chez elle, qui finalement a une dimension anthropologique importante. Je vois que cette femme s'inquiète pour moi, elle prie pour moi, elle prie pour le quartier. C'est quoi des gens qui prient pour le quartier? C'est quoi ces gens qui s'envoient des vœux entre eux, etc. Tout ce qui va être sous-jacent va m'amener après à demander à la maison de l'architecture, d'aller enquêter dans les plans de l'architecte. Parce qu'en fait, je pense que dans tout retour, en fait, comme ça aussi, c'est comme lire la Bible ou le Coran, c'est revenir au texte, quelque part. Et le plan, on va dire, c'est le texte original de la construction, de l'histoire de la source. Voilà. Je vais vous raconter tel truc, je vais construire ça. Et moi, en fait, quand je suis revenu à la source mi-2021, mon corps d'adulte n'était plus mon corps d'enfant qui allait sur la dalle, jouer, aller voir le voyage en ballon au ciné-club, etc. Et tout. Et je dis, mais je ne sens pas quelque chose. Je vois très peu de graffitis, très peu d'écriture, très peu de territoires marqués, pas de couleurs. Je m'attendais, on parle de l'art en banlieue, le graffiti, le rap, le hip-hop, pour moi, tout ce mouvement-là, en fait, n'est pas visible à la source. C'est quand même étrange. Ou alors ça a disparu. Voilà. Et puis, un maintien de la culture, mais plutôt politisé au travers des Azelco, etc. et tout. Mais pas de regard autonome, en fait, de révolte intérieure, etc. et tout. Donc, allons voir, s'il vous plaît, les plans, parce que je ne sens pas un truc juste. Où est le truc? Où est le centre, l'énergie? On va à Paris aux archives avec donc Elke Mittmann, qui est historienne, qui travaille sur la source aussi. Et on déroule des plans, etc. et tout. Et d'un coup, on déroule un grand plan qui fait 6 mètres. Un premier morceau où on voit un bout de truc complètement énigmatique qui, en fait, s'avère être un plan de masse du jardin du parc floral. On comprend l'entrée, le bouillon et tout. Et puis après, on déroule le plan. Je cherche la tour comme un gamin. Je pointe la tour et à ça sur le plan, sur la dalle, je vois musée. Et on voit un musée qui est en forme un peu, peut-être on l'a vu dans les projections télévisées, qui est en forme un petit peu de carré, il est carré, avec un escargot, enfin une espèce de colimaçon comme ça. Et Elke me dit, mais c'est, pour moi, c'est le monde d'Anéum.
Un peu comme un accès au point haut du musée sur une terrasse.
Oui. Et en fait, oui, effectivement, c'est un musée qui a un point haut d'ailleurs, c'est intéressant. Le monde d'Anéum, elle me ramène un ouvrage du Corbusier. On déplie une projection pour l'Algérie, je crois, pour Alger, du monde d'Anéum. C'est un musée qui n'a jamais existé. Hein. Et donc, on aurait du coup comme ça une trace d'un projet du Corbusier à la source. Et puis après, on enquête aux archives du Corbusier à Paris sur ce qu'était le monde d'Anéum, et on voit que là, c'était un plan pour 1931 avec toute une bande de chercheurs, un Paul Hotlet, etc. et tout, qui cherche à inventorier le monde. Et on voudrait faire pour la ville de Genève un Genève bis, dans lequel on pourrait archiver le monde entier, dans des fiches, etc. Et sous forme d'exposition, le moi, la nature, un petit peu sous forme anthropologique, etc. Voilà, de l'époque, avec ce qu'on, si on s'imagine aujourd'hui, une forme de conception du rapport à comme un musée comme le MUCEM, musée des civilisations, avec un rapport au sport, à la nature, etc. Et là, quand je vois en fait ce qu'a fait le Corbusier à l'époque, en 1931 pour la ville de Genève, qui est un Genève bis, comme la source est un Orléans bis, Hein, ça s'appelait Orléans 02 pendant très longtemps. Une espèce d'annexe en fait de la ville. On a une ville projetée à 7 ou 8 kilomètres où on a tous les services en fait, c'est-à-dire municipaux, politiques, urbains, etc. et tout, qui vont servir à une population pour s'établir en tant que telle. Aller voter, aller à l'école, naître et être hospitalisé, etc. Faire du sport et tout. Et puis on a ce musée qui est complètement énigmatique, qui est en fait une pyramide qui est aussi haute que la tour. Et on voit sur le plan de 31 une tour, une dalle, un musée, des lacs artificiels, des avenues à l'américaine et la nature au loin. Voilà. Et donc là, le rapport à la source avec la Sologne. Donc on sent en fait que ce musée, en fait, ce que vous appelez le musée fantomatique ou le musée absent, est complètement l'espace manquant en fait. Et dans une autre enquête qui a été menée aussi par le Federica, qui travaille avec la maison d'architecture, on a enquêté sur on a fait sortir des archives municipales qui sont ici à Orléans, près du musée en fait. Et là, on se rend compte que les archives municipales de la source sont les moins consultées en fait de celles qui sont demandées. Et quand on regarde en fait ce qui est éparpillé, ce qui ressort, c'est deux choses. Un, que très vite, les habitants de la source s'organisent en association pour aller manifester auprès de Roger Secrétin, le maire de l'époque, pour dire mais le plan de la source que vous avez voulu vendre, la ville nouvelle, en fait, c'est pas ça. La dalle, ça n'en finit plus. L'aérotrain, il n'arrive pas. Enfin, c'est construit par le vide. Arech qui dit bah, je vais remplir le vide par des structures gonflables, etc. Enfin, on voit que ça part un petit peu comme ça et tout. Ça se cherche, quoi. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, il y a une chemise où c'est écrit 16 projets non réalisés. Et quand on l'ouvre, en fait, on voit tous des projets en fait, qui étaient projetés pour la source, dont un qui vraiment moi m'émeut, c'était une demande de la FEMIS, hein, qui est l'école de cinéma de Paris, qui demande à Secrétin d'installer une base à la source, donc une base de production de cinéma, de réalisation de cinéma à la source. Voilà. Une autre, c'est un atelier d'un maître verrier, etc. Une école de son acoustique, enfin, plein de choses, quoi. Et ce que dit en fait l'historienne pour le coup, c'est que quand même, voilà, ça c'est un plan de 64. Orléans, la source, est une ville nouvelle, qui est une ville modèle en fait, parce que la maquette est montrée à Montréal en 67 à l'Expo Universelle, et en fait dans laquelle on projette énormément de choses, beaucoup de fantasmes, mais dans laquelle on n'intègre pas la question, on va dire, du rapatriement de l'Algérie, etc. Et ce que disent les familles comme Véronique là, qu'on a filmé, ils arrivaient d'où, c'était qui, c'est tout ça en fait. C'est plein de gens qui arrivent de partout, d'Algérie, du Maghreb, de Châteauroux, de Bordeaux, d'Auvergne, de Blois, d'autres, tu vois, etc. Et puis on est mine de rien, dans un laps de temps, on est dans l'après-guerre quelque part aussi. On est dans le plan hein, de la charte d'Athènes où il faut reloger, reconstruire, etc. Et la source, finalement, fait figure un petit peu de ville un peu modèle, quand même, mais qui d'un coup va échapper à son destin. Et ce que je ressens, moi, en tant qu'artiste, en fait, et dans ce qu'on ressent aujourd'hui, dans le rapport qu'on peut voir avec les habitants qui viennent au studio, c'est qu'en fait, les gens n'ont jamais trouvé cette légitimité en fait, à prendre la parole, à exprimer leurs émotions, à être regardés, etc. Et on voit bien que, bon, après, c'est peut-être générique aux banlieues, mais la question du regard sur eux, des photographies, etc., et tout, et ça glisse. C'est tu peux noter ce que je dis, mais prends pas de son, les photos, faut voir, etc. Et tout, voilà. Il y a des prises de parole, hein, je pense à Farid si tu veux en parler. Le jour où la tour tombe, je dis à Louise, on sort avant parce que moi j'aime bien prendre la température. Donc à 9h, on va sur la place du marché. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mec là, tenue survêtement, Farid, en train de regarder la tour avec le chapelet à la main. Quoi. Et on lui parle et il me dit c'est le chapelet de mon père. Il part sur l'Algérie, etc. Et tout. Je dis, je peux te prendre en photo. Il me dit, oui, vas-y, bien sûr. Et tout. Et on part, on marche ensemble. Il me fait un rap, il sort un truc, un texte, des tripes. Le gars, il sort de...
C'était son âme, quoi.
Il était interné il n'y a pas longtemps parce qu'on sent qu'il y a des terrains qu'on a étudiés, qu'on voit. Il y a des troubles un peu psychotiques chez certains habitants, certains jeunes qui ont vécu dans ces quartiers-là, qui ont touché à certaines choses et qui, du coup, en fait... Moi, je mets ça sur le dos, sur les maladies de l'exil, hein, quelque part. Quand je dis que je cherche une plante au village pour soigner quelque chose, c'est complètement utopique. Cette plante n'existe pas. Ce qui est intéressant, en fait, maintenant, dans l'art et la recherche, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire thérapeutique. Hein, toute cette façon qu'on va déployer, en fait, les rencontres, le cheminement, etc. Et presque l'exposition, en fait, ça va être de retranscrire, en fait, la démarche
plutôt que le résultat. Ah oui, t'as vu, j'ai fait des beaux portraits des habitants de la source. C'est pas que ça, en fait. Par exemple, hein, sur la source, c'est comment aussi, ou sur les banlieues générales, comment aujourd'hui on pourrait représenter des gens qui n'ont pas envie d'être photographiés, hein, ou qui sont absents des questions des représentations.
Qui sont au dehors. C'est ça, en fait, un peu la pensée du dehors. Enfin, c'est tous les trucs aussi foucaldiens, hein, qu'on a un peu trop enterrés, je pense. Mais pour essayer de comprendre aussi comment il y a une pensée, en fait, qui appartient aux gens, mais qui a été aussi beaucoup, pas pris ou volé, mais un peu par, justement, aussi tous les grands de la sociologie. Mais en fait, il y a d'autres regards qui permettent de voir de l'intérieur les choses.
C'est un travail qui nous permet de remettre en valeur ce qu'on appelle les savoirs situés, en fait, en sociologie. Voilà, et la question de, et s'il y avait eu ce musée, en fait, quelles auraient été les émanations culturelles, les représentations culturelles, seraient-elles plus fortes, plus ancrées, etc. Et tout. On sent qu'en fait, cette question de l'ancrage à la source, hein, à part dans les familles berbères que tu avais connues à l'époque, qui étaient très ancrées, mais qui, pour lesquelles il y avait aussi des difficultés de rapport avec les autres aussi, population. C'est ça aussi, les quartiers. C'est comment je vais vivre avec des Sénégalais, avec des Asiatiques, etc. Et tout. Parce qu'entre différentes cultures, en fait, le musée, c'est le lieu qui crée cette synergie. Voilà. Et cette dimension d'un musée dans une ville, dans un lieu comme la source, elle aurait été vraiment très, très intéressante en termes d'expérience. Ça amène aussi des débats. Moi, je voulais un tout petit peu en parler, mais la femme de Hamid s'appelle Waria. Si tu veux le dire.
Je vous propose qu'on en parle après le visionnage d'un reportage. Ouais. On va revenir sur l'histoire de la source. Alors, tu nous parlais de justement, c'est Foucault qui a travaillé sur à la fois l'enfermement, justement, en France, que ce soit en prison ou alors en asile psychiatrique, et ce musée qui aurait été une alternative d'ouverture, justement. Exactement. Et puis aussi toutes les pistes de développement, j'allais dire, individuel que seraient proposées aux habitants et habitantes. Je repense à ce petit. À ce jeune dont tu nous parlais tout à l'heure, hein, justement, qui a réussi, grâce à la rencontre avec un artiste, à devenir lui-même artiste, et comment les arts soignent. Parce qu'en fait, c'est ça. Alors, soigne, il ne faut pas le prendre forcément comme une thérapie une fois qu'on est malade. Hein. Rien ne nous empêche de nous tenir en bonne santé, d'avoir une hygiène, justement, d'ouverture sur le monde. C'est ce qu'aurait permis ce musée. Tu voulais, Malik, nous parler de la femme de Hamid.
Oui, n'est-ce parce qu'en fait, Hamid expose au Mondanium Studio, on commence à se connaître, des gens passent à l'exposition, on discute autour d'un plan, etc. Et tout. Et dans ces relations de gens qui sont passés, une amie en fait commune, qui s'appelle Joëlle Richard, pour la citer, me parle de ce qu'a fait Waria Jarboui, autour de ce qu'on appelle les cliniques de constatation. Elle m'a dit, mais est-ce que tu connais cette histoire? Parce que finalement, autour de cette notion de musée, hein, dès qu'on aborde les questions de réparation en fait, des histoires, hein, tu parlais de traces, de cicatrices, etc. On est dans la réparation. On tire, hein, quelque part, le fil thérapeutique de qui pourrait jalonner un scénario synopsis d'une exposition. Voilà. Faire exister un musée qui n'a jamais vu le jour, prendre soin, prier pour le quartier au travers de cette femme africaine, un artiste qui cherche quelque part aussi du soin, de la thérapie dans sa propre démarche pour soigner un exil transmis. On transmet pas la langue, mais on transmet des maladies de l'exil, par exemple. Voilà. Comment ça arrive là? Et puis, quelque part, concrètement, en fait, des travailleurs sociaux ont travaillé sur de la concertation. Voilà. Donc, cette ligne de concertation, je te laisse en parler, puis je peux revenir un petit peu dessus. Mais ce qu'on m'a dit, moi, c'est que, parce que c'est très nouveau, et Waria, il faut que je la rencontre pour le projet, c'est que des familles qui étaient, soi-disant, on va dire, qui mettaient le plus en difficulté les institutions, hein, dans leurs questions d'intégration, de soins, de rapport à psychologie, etc. et tout, n'arrivaient pas en fait à développer de relations avec l'assistance sociale, etc. et tout, dans le système de face à face du rapport au bureau et la famille, ça communiquait pas. Donc l'idée, c'était de créer en fait un système de concertation où on inviterait les familles, en fait, où on mettrait en face des familles tout. Les interlocuteurs qui sont dans leur parcours en fait familial, hein, au niveau de l'emploi, au niveau de l'école, au niveau du soin, au niveau du rapport avec peut-être la banque, je sais pas, etc. et tout, et que du coup là, dans ce cercle en fait de concertation, la parole se déliait et on pouvait à ce moment-là tirer et voir comment ces familles qui étaient en fait montrées du doigt comme peut-être pas capables de s'intégrer en fait avaient elle-même développer des ressources en fait, qu'on n'imaginait pas. Je te laisse compléter, mais moi, voilà ce qu'on m'a raconté en fait, pour l'instant, de ce qui m'intéresserait de voir.
Personnellement, je vais pas pouvoir en parler techniquement, ce que c'est. Mais ce que j'ai vécu avec mon épouse, avec Waria, comment ça a été né, comment ça a été formé, et les retours aujourd'hui. À la maison, il y a des pavés de schémas d'une personne où le nombre de corps professionnels, administratifs, médicaux, intervient autour d'une personne. D'une personne. Et il y a même des disparitions de vie. La mère est partie, tel est revenu, tel est prisonnier, l'autre est... Et tout ça, c'est juste pour comprendre et porter et comprendre la situation sociale de cette personne. Pourquoi il en est là ? Pourquoi il en est là ? Et je pense que elle, il y avait même une partie qui a été sur sa charge pour cette formation, parce qu'elle a été en Italie, elle a été en Belgique, elle a été formée. Et je crois que le principal sur ce travail, c'est de concerter l'autre, de le concerter, de dialoguer avec lui, de le concerter, je pense.
Oui, oui.
Mais d'y aller, de donner vraiment des explications techniques, je préfère que ça soit même elle-même.
D'accord. Oui, mais ce sera la suite du projet.
C'est assez compliqué. Moi, pour préparer cette émission, pour comprendre ce qu'est la clinique de concertation, c'est en Belgique que j'ai plus d'éléments. Oui. En France, il y a peu de littérature à ce sujet.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des expériences à la source. C'est ça, en fait. C'est que l'idée de l'expérience du studio du Monde Animal, de l'exposition, permet, en fait, de retrouver la parole sur ce qui a pu jalonner. En fait, soit on fait un travail de mémoire en disant, allez, vas-y, raconte-moi ton histoire. Tu prends le micro, ah ben dans la tour, c'était comme ça, etc. Tu vois. Soit, en fait, on tire un autre fil. C'est ça, en fait, que je voudrais en fait, retirer un peu de cette rencontre et de la manière dont on travaille. C'est qu'effectivement, l'itinéraire thérapeutique, en fait, quelque part, il permet aujourd'hui d'aborder la mémoire d'une manière, en fait, différenciée. C'est pas forcément distancié, au contraire. Hein. C'est beaucoup plus dans le rapport aux émotions et à l'intuition. Comme je disais, l'intuition au sens de Sayad, c'est le retour. La question de, il faut toujours revenir sur ses propres traces pour comprendre en fait ce qui s'est passé, voilà. Et le what if en anglais, c'est mais s'il y avait eu ce musée, qu'est-ce qui se serait passé? Et là en fait, on tire tous les fils un peu psychologiques en fait de construction politique, sociale, artistique, d'expérience scolaire, et on arrive, parce qu'on fait aussi un atelier des scolaires au collège Alain Fournier, on arrive comme ça à recréer en fait une dimension qui est presque de l'ordre un petit peu parfois de la fiction, dans ce qu'on pourrait se raconter, etc. Et tout, parce que des fois, on se raconte des histoires pour exister, la question du récit de soi, et en même temps, des fois, des expériences concrètes, là, par exemple, sur les cliniques de concertation. Moi, ça m'intéresse parce que dans l'installation finale de l'exposition, la question de la représentation d'une assemblée d'habitants va reprendre la forme, finalement, d'une concertation, du cercle, comme ça. Voilà. Donc, quelque part, sans forcément qu'il y ait des formes visibles, on retrouverait des corps présents qui auraient pris la parole, qui se seraient exprimés. Et ce qui est très beau, moi, je trouve très fort dans ces cliniques de concertation, c'est ce qu'on appelle le socio-géogramme. Et là, on arrive dans ces dessins que tu vois à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, on dessine au fur et à mesure au fait que c'est comme un plan, que la personne s'exprime, un schéma, en fait, comme un dessin d'enfant pratiquement, qui montre en fait comment la personne, le sujet A est en interaction ou a contacté, tiens, la personne, je parlais de la prison ou de l'école, etc. Et comment cette personne de l'école a contacté un tel et s'est revenu. Et en fait, on voit tout la circulation, non pas dans le quartier, mais dans la vie sociale de l'habitant.
Et c'est pas que je pense, le fondateur de cette école, c'est monsieur le maire, oui, qui est d'origine belge. Sachant que les Belges, ils ont un petit peu d'avance sur la psychologie sociale. Ce monsieur, je l'ai reçu à la maison, il est venu à la maison. Il a passé un week-end chez nous à la maison, on a discuté de beaucoup de choses, de cette démarche. Et il en était aussi pour quelque chose, pour la formation de Waria. Voilà.
Juste un petit mot, je vais laisser Louise peut-être dire quelque chose. Non, sur, on revient sur, par rapport à ça, sur une des photos qui a été faite de ma tour 17, hein, que peut-être on a vu, d'un intérieur bleu avec un locataire qui écrit des choses sur le mur. Louise a une interprétation peut-être aussi à dire avant de terminer.
Bah, c'est par là qu'on est rentré, sans mauvais jeu de mots, le jour du vernissage d'exposition. Enfin, c'est par là où je suis passée pour introduire des choses. Notamment sur la question en fait de l'antipsychiatrie, qui rejoint un peu aussi la question des cliniques de concertation, enfin je pense, même si je connais pas suffisamment, mais c'est je suis partie en fait d'un écrit de Daniel Sivadon et de Jean Houry, les gens qui ont été fondateurs aussi de la Borde et de la Chaînée notamment, qui ont essayé de faire autrement en fait le rapport psychiatrique aux gens et pas seulement dans le traitement chimique en fait des choses. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Et il y a un écrit qui est super, qui s'appelle Constellation, qui est aussi en lien direct avec l'atelier que Malik Nejmi mène au collège Alain Fournier, qui s'appelle Constellation aussi. Et il y a un passage en fait sur l'histoire de la fenêtre, et où la fenêtre n'est pas transparente, elle fait aussi support et surface. Et elle dit dedans, en fait, Daniel Sivadon, que c'est comme quand on est môme et qu'on dessine sur la buée. On voit pas à travers la fenêtre, on projette un certain imaginaire, en fait, directement sur la surface. Et il y a ce rapport aussi à la question, en fait, des troubles psychotiques où jamais un schizophrène, il va laver la fenêtre. Enfin, la vitre, il va pas la nettoyer parce que s'il voit à travers, il saute. Et donc c'est là-dessus en fait que j'ai introduit aussi cette image que Malik il a réalisée à la chambre dans la tour 17 où en fait on voit sur les murs Baxter du coup c'est sûrement son blaze qui trace tout un tas de choses sur les murs en fait et c'est sa constellation aussi à lui, c'est ses moyens de repère dans une société qui te rejette parce que t'es à la marge, parce que t'es considéré comme fou, parce que t'es tolard, enfin c'est tout ce que Foucault aussi a dit. Donc en fait tout ça, ça fait cycle aussi quoi. Ça,
et on voit bien,
c'est
en fait,
ça quoi.
Par rapport à ce qu'on dit sur le savoir situé, c'est comment en fait on a sur une tranche comme ça une population qui pourrait vivre dans des quartiers, etc. Non pas des maladies en fait, mais des constructions personnelles en fait, qui vont, là le Baxter 76, il va à des Illuminati, hein, où les gens pensent qu'ils sont doubles, à une sourate du Coran, où c'est là, la sourate du Coran, tu me l'avais traduite, hein, c'est le prophète qui est sur le trône, et ça se termine sur presque du micro-mégas, pour reprendre, je ne sais plus si c'est Voltaire qui avait écrit ça, mais l'infiniment grand, l'infiniment petit, où il dit, je ne suis qu'une poussière, ne serait-ce que le point d'un atome, qui suis-je pour parler, etc. Et c'est écrit dans la tour, quoi. On voit bien que finalement, ces tours, ces constructions, etc., et tout, ont aussi construit en fait, des constructions d'élévation personnelle, etc. Et les gens ont besoin d'exister de par leur propre récit jusqu'à l'écrire sur leur mur. Ou Rokia qui me demande d'être son biographe, etc. Donc, il faudrait travailler plus longtemps ou faire une émission plus longue, ou avec des habitants aussi, peut-être, etc. On pourra se revoir. Mais voilà, l'idée, c'était un peu de pas être cette image qui est marquante dans celle de la tour et du rapport aux fenêtres aussi. Pour l'antipsychiatrie qui pour moi en fait dans mon enfance hein, quand j'ai grandi à la source, la fenêtre était mon moyen de m'évader en fait, c'était mon écran et derrière les immeubles pour moi le Maroc était là, c'était pas Orléans en fait, c'était ma grand-mère dont je volais en fait, je partais, je voyageais, je revenais.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La rédac pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La rédac pop de Radio Campus Orléans.